RFI TV5 Monde vous présente Afrique Press, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue à Afrique Press, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Valérie Thorin du magazine Africasie et Cédi Kaba du Monde Afrique. Au Côte d'Ivoire, une femme pour diriger le RDR, le Rassemblement des Républicains, qui tenait la semaine dernière son troisième congrès ordinaire, a élu à sa tête la grande chancelière des ordres nationaux, Henriette Diagri-Diabaté. Une autre femme, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation, occupera, elle, le poste de secrétaire général. Le parti s'est mis en ordre de marche pour préparer la présidentielle de 2020 et relever les prochains défis. Une absence remarquée à ce congrès, celle de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, pourtant réélu deux fois sous la bannière du RDR. Au Togo, le gouvernement joue l'apaisement après les trois semaines de tensions pendant lesquelles l'UNIR, le parti au pouvoir, et l'opposition, rangée derrière le PNP de Tigbi Achadam, ont fait la démonstration de leur capacité à mobiliser la rue. Réunis en session plénière, les députés doivent étudier le projet de révision constitutionnelle dans lequel l'opposition réclame l'inscription des dispositions prévues dans la Constitution de 1992, à savoir la limitation du nombre de mandats et la tenue d'un scrutin à deux tours. Pour son troisième congrès ordinaire, le RDR avait vu les choses en grand. 10 000 militants réunis pendant deux jours au Palais des Sports de Trècheville. À trois ans de la présidentielle, le retour d'Alassane Ouattara à la tête du parti était très attendu. Mais à la surprise générale, il cède sa place à une femme. Jean-Baptiste Placa, en acceptant de devenir le président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara écarte-t-on définitivement l'éventualité d'un troisième mandat en 2020 ?
C'est un autre débat. Je pense que le message est brouillé, complètement brouillé, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il veut signifier et aux Ivoiriens et aux militants du RDR en allant chercher Madame Diabaté, qui est une brillante personnalité, mais qui a donné et largement donné. Alassane Ouattara a fait introduire dans la Constitution une disposition qui n'avait rien à y faire, en l'occurrence autoriser les chefs de parti, le chef de l'État à devenir chef de parti. Il fait cela, on se dit qu'il a quelques idées derrière la tête, et à la dernière minute, il va chercher cette dame qui a été une bonne dirigeante du RDR, mais à 82 ans, après être passée par tant de responsabilités, elle aspirerait à mieux que de résoudre les problèmes, les petites guerres de positionnement au sein du RDR. Et c'est là tout le problème, parce que Oufouet Boigny avait hésité à trancher quand ses dauphins potentiels se chamaillaient.
En l'occurrence, Alassane Ouattara et Bédié.
Et ça a donné les drames qui ne sont pas terminés et qui continuent aujourd'hui. Et voilà que Ouattara, au lieu de trancher dans ces guerres-là, préfère aller chercher quelqu'un qui, ne va pas résoudre le problème. On ne fait que différer des affrontements qui seront sanglants le moment venu.
Je crois que vous partagez, Cédi Kaba.
Oui, il y a un calcul derrière le choix de
Henriette Diabaté.
Henriette Diabaté, un calcul qui tient compte du contexte dans lequel le congrès a été préparé. Comme vous l'avez si bien dit, par exemple, les partisans de Soro estiment ne pas avoir été associés. Si on avait pris une personnalité clivante, ça aurait affaibli le RDR. Et le fait que ce soit Madame Diabaté. Qui est pris va permettre, à mon avis, de recoller le morceau et de préparer, de mettre le RDR en un meilleur ordre de bataille pour la présidentielle. Ça, c'est un message interne. Il y a un deuxième message, c'est le message envers aussi les alliés. Madame Henriette Diabaté va être plus, à mon avis, va gérer plus les questions de l'alliance avec le PDCI et les autres partis. Et ce choix-là, c'est un choix d'avenir qui a été fait. Parce que si on n'avait plus une autre personnalité, par exemple, si Gong Koulibaly avait été investi président, ça aurait braqué les partisans de Soro. Donc il y a cet élément. Et puis l'autre message d'apaisement, c'est que dans peu de jours, on va pourvoir les 24 postes de vice-président. Et en ce moment, on va voir quel va être le casting qui va être choisi. En fonction de ça, on saura si le RDR est sorti grandi, est sorti ressoudé de ce congrès ou pas.
Valérie Thorin, Guillaume Soro absent de ce troisième congrès, comment expliquer cette mise à l'écart ?
Eh bien, finalement, en fait, quand on voit la personnalité de Henriette Diabaté, qui est une personnalité consensuelle, on se rend compte que Alassane Ouattara a voulu écarter, comme l'a dit Cédric, les personnalités clivantes. Et alors, en termes de personnalité clivante, peut-être pas à l'intérieur, mais en tout cas à l'extérieur du parti avec les alliances, c'est Guillaume Soro. Donc, j'ai l'impression, moi je suis plus optimiste que Jean-Baptiste Placard. Je pense que Madame Diabaté a les moyens intellectuels et en termes de relations et d'habileté diplomatique d'aplanir les choses à l'intérieur et d'écarter tous les problèmes d'alliance à l'extérieur.
Mais en même temps, le RHDP, qui a été lancé en 2005 et qui prévoyait la création d'un parti unifié, on ne voit toujours pas ce parti arriver, non, 12 ans après.
C'est-à-dire, Madame Diabaté, elle a un contentieux historique avec Henri Conabédier.
Lequel ?
Ben, c'est qui l'a mise en prison. Et à un moment terrible de la vie du RDR et de sa vie à elle, elle a été marquée définitivement par cet emprisonnement, et ce monsieur sera son partenaire pour créer un parti unifié, soi-disant. Bon, on attend de voir.
Il y a du mal à être mis en œuvre. Hein.
Mais en même temps, Bédier aussi avait un contentieux avec Ouattara, puisque au nom de l'ivoirité, on avait exclu Ouattara de la compétition politique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se ressouder de mon point de vue. Il y a aussi un argument personnel pour Ouattara. Compte tenu du contexte aujourd'hui, la situation économique de la Côte d'Ivoire avec la chute du cours sur du cacao, et les questions internes aussi, ces mutineries, c'est la situation de l'armée, à mon avis, il a choisi de se concentrer sur l'appareil d'État plutôt que de prendre le parti et de vouloir faire jouer les arbitres tous les matins.
C'est que
Jean-Baptiste Placard.
Ce qui vient de se passer là, c'est une façon de ne pas régler les problèmes, de différer le moment même de les prendre en charge, et ça sera comme ça jusqu'au bout, parce que il faut pas espérer que Madame Diabaté va, avant 2020, passer la main à qui que ce soit. Ou
à Gon Coulibaly, qu'on présente comme le successeur d'Alassane Ouattara.
Non, mais si c'est ça, qu'on le fasse, et qu'on le fasse directement. Et puis, il y a un autre problème. On fait des réformes constitutionnelles, on crée un poste de vice-président, et on s'attendait à ce qu'il mette quelqu'un qui représente l'avenir du pays. Il met un haut fonctionnaire de qualité, mais un grand commis de l'État,
qui est
lui aussi fatigué, aspire à un peu de repos. On a comme le sentiment que la gérontocratie a pris le dessus dans ce pays.
Valérie Thorin.
La gérontocratie, n'exagérons rien quand même. Moi, je pense que avec l'âge, il y a une certaine sagesse. Et puis, moi je trouve que des femmes, moi je vais défendre la cause des femmes.
C'est assez rare d'avoir une femme à la tête d'un parti au pouvoir.
Franchement.
Elle a déjà été.
Elle était secrétaire générale, c'est pas pareil.
Là, les militants du RDR vont voir ce que c'est que d'être dirigé par une femme, la mère du RDR, enfin c'est formidable. Ça va être une femme qui va arrondir les angles, qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, elle va résoudre un certain nombre de questions.
Vous savez.
Je pense qu'elle va même ramener Soro à la maison.
Si ça se trouve.
Bon, mais attendons.
Jean-Baptiste Placard.
Non, mais on attend de voir.
Mmh. Un mot sur Gon Coulibaly, premier vice-président.
Oui, je pense que sa désignation comme premier vice-président le laisse en course, puisqu'il est pressenti, mais il n'est pas seul. Il y a d'autres prétendants au poste, à l'investiture du RDR pour la prochaine présidentielle, si c'était le cas. Mais, ça le laisse en course, mais c'est aussi une sorte de, à mon avis, si Ouattara lui-même ne se présente pas, qu'il présente Gon Coulibaly, mais compte tenu des risques de braquer le camp Soro, ce choix a été fait de le mettre en deuxième position par rapport à la tête du parti.
Un dernier mot sur la Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Placard.
Sidik, qui est journaliste et qui est censé, comment dit-on, insister sur ce qui doit se faire, dit si Ouattara ne se présente pas. Ouattara ne doit pas se présenter.
Il
ne
non, peut pas moi se je présenter. Ne demande pas à Ouattara de il se
ne
présenter.
Peut pas, il ne peut pas se présenter. Donc, même laisser entendre qu'il aurait pu éventuellement être candidat, c'est...
Non, la constitution de la Côte d'Ivoire ne lui permet pas de se présenter. Voilà, et j'espère qu'il va respecter la constitution de son pays. Mais on est arrivé en Afrique...
Dans son
pays...
discours, il a quand même appelé ses pairs à respecter, à promouvoir l'alternance.
Bien donc, sûr, ça vaut qui était très bien.
Ça vaut pour
très
lui.
Bien, c'est très bien.
Le Togo, au cœur de la fronde populaire depuis 3 semaines, Tikpi Achadam, le fondateur du PNP, qui a fait une irruption sur la scène politique en fédérant les déçus du système. La session ordinaire du Parlement qui s'ouvre aujourd'hui pourrait faire baisser la tension si elle adoptait la révision constitutionnelle, limitant le nombre de mandats. Jean-Baptiste Placat, que faut-il attendre de cette session plénière alors que l'opposition a claqué la porte du Parlement ?
Il ne faut rien en attendre. Je pense que le débat se situe à un autre niveau que de divertir les gens avec une session plénière. Pourquoi ? Pour envisager de respecter la limitation de mandat tout en ouvrant la porte à la possibilité pour Fornia Simbé de non seulement de terminer son 3e mandat, mais de s'en offrir 2 autres derrière. Je pense que c'est de la provocation, comme dirait un leader de l'opposition. Je pense qu'il arrive un moment où il faut que les dirigeants d'un pays acceptent qu'ils ne peuvent pas être dans quelque chose qui soit de l'anormalité, L apostrophe, anormalité, complètement anormalité.
Sédi Kaba, comment expliquer cette lame de fond qui est venue de Sokodé, qui est réputée être le fief du clan Yadema depuis 3 semaines?
Je crois qu'il y a manifestement quelque chose de tout à fait nouveau, cette dynamique unitaire. Parce que jusqu'ici, l'opposition avait été un peu éclatée en chapelle. Ça n'avait pas permis d'imposer un rapport de force au pouvoir. Mais puisque, comme il doit être rappelé, les réformes institutionnelles et constitutionnelles auraient dû être faites à partir de 2006. L'accord politique général prévoyait que ces réformes soient engagées et 11 ans après, elles n'ont pas été faites parce que le pouvoir a fait des manœuvres, mais parce que aussi l'opposition n'avait pas su créer une dynamique unitaire. Mais là, on le voit avec le Parti national panafricain de Achadam, plus le fait que entre-temps, le pouvoir a concédé le statut du chef de file de l'opposition qui est devenu Jean-Pierre Fabre. Tous ces éléments mis ensemble ont permis de créer une dynamique unitaire. La manifestation a eu lieu à Lomé, mais aussi dans 10 autres villes du Togo, ce qui prouve qu'il y a une lame de fond, il y a une dynamique aujourd'hui favorable au point où la position de l'opposition a évolué. Initialement, c'était obtenir justement obtenir la révision de l'article qui limite le nombre de mandats, obtenir aussi le passage à 2 tours puisque c'est aujourd'hui 1 tour, mais aujourd'hui les gens vont jusqu'à réclamer le retour à la constitution de 1992 qui instaure le régime semi-présidentiel.
Mais là où le mandat également pour les parlementaires.
Limite le mandat pour les parlementaires, mais là où le débat devient plus corsé, c'est que même si la réforme était adoptée aujourd'hui, le débat va se poser sur son application parce que l'opposition dit que ça doit être appliqué immédiatement, alors que le camp du pouvoir dit que non, la loi n'est pas rétroactive. Pour le pouvoir, à partir de 2020, que la réforme va commencer à se jouer. Or, il s'agit manifestement d'une question plus politique que juridique.
Valérie Thorin, ces manifestations, elles ont révélé un nouveau leader de l'opposition, Tikpi Achadam, hein, derrière lequel l'opposition se range, hein, puisque... Sédi Kaba parlait d'un rassemblement de l'opposition aujourd'hui. Alors, le pouvoir le présente comme un illuminé qui surfe sur des questions religieuses et ethniques. Illuminé ou alors nouveau leader politique?
C'est difficile à dire tout de suite maintenant. C'est sûr que surfer sur les questions religieuses et ethniques n'est pas une bonne chose, nulle part. Donc, sur ce sujet-là, je trouve que c'est dommage. En revanche, que l'on assiste à l'émergence d'un leader, oui. certainement, et il a fait de la rue une véritable force politique. Cela dit, que les parlementaires et tous les gens qui sont en train en ce moment de plancher sur cet enjeu national disent « on se range derrière la rue », bon, révèle la force de Tikpi, mais ça révèle aussi une certaine faiblesse de leur part. Je pense que les choses ne doivent pas se jouer dans la rue, elles doivent se jouer dans les assemblées, parce que sinon, on va à la violence.
Non, ça se joue dans la rue quand...
La violence est dans la rue depuis 3 semaines.
Se joue dans la rue quand les assemblées, quand les institutions ne fonctionnent pas et n'ont pas fonctionné.
Sidi Keba, qui pour conduire la médiation cette fois, comme l'avait conduit Blaise Compaoré en 2006, parce que deux anciens chefs d'État, Obasanjo et Jerry Rawlings, ont pris fait et cause pour les manifestants?
Oui, à mon avis, c'est clair qu'il faudra un médiateur qui ait à la fois la légitimité et qui puisse bénéficier d'une oreille attentive de Faure et de l'opposition. Là, on voit à la manœuvre le représentant permanent du secrétaire général de Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas. C'est lui qui est en tout cas à Lomé et qui a parlé aux deux autres. Il y a Marcel de Souza qui est allé. Mais à mon avis, il faut une personnalité.
Pas des médiateurs pour l'instant.
C'est eux qui sont partis pour essayer de faire le go-between. Il faut une personne qui ait plus de légitimité, qui ait plus de poids pour faire entendre les choses. Et là, à mon avis, de toute façon, cette fois, l'enjeu va être beaucoup plus important puisque l'opposition ne se satisfera pas d'un compromis comme en 2006 avec les risques qu'il ne soit pas appliqué.
Jean-Baptiste Placard.
Moins de 48 heures avant d'arriver à Lomé pour soi-disant rencontrer les deux parties, le représentant du secrétaire général des Nations Unies déclarait dans une conférence de presse dans une capitale voisine que ce mouvement n'était rien de très important, c'est quelques personnes, quelques agités, grosso modo, le discours que tenait le pouvoir. On ne peut pas être médiateur crédible si l'on se met du côté d'une partie et en l'occurrence de ceux qui ont le pouvoir. Je pense que les histoires de médiation et tout ça, vous vous souvenez de la médiation de Macky Sall au Burkina au moment du coup d'État et tout ça. Quand vous n'avez pas été capable d'intervenir et d'encourager vos amis au pouvoir d'appliquer les règles ou les accords convenus et que la population prend son destin en main, c'est-à-dire que c'est la population qui règle son problème. Les médiateurs sont faits pour, comment dit-on, faire traîner les choses, arranger la situation pour ceux qui sont au pouvoir. Mais je ne sais pas s'il y a besoin d'un médiateur dans cette affaire. Les Togolais se sont levés, ils règlent leurs problèmes. Et les médiateurs, ils n'avaient qu'à venir plus tôt.
Valérie Thorin, le sommet Israël-Afrique qui devait se tenir à Lomé a été annulé, hein? Quel commentaire vous faites?
On est quand même dans une situation extrêmement instable. Moi, je suis toujours un peu prudente avec le fait de dire c'est la rue qui va décider. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste sur cette période dilatoire qui s'est déroulée depuis 2006 et sur l'incapacité en tout cas de Ibn Chambas d'être médiateur. En revanche, quitter l'assemblée plénière de la part de l'opposition, c'est pas une bonne chose parce que la politique de la chaise vide, ça n'a jamais rien rapporté.
Il faut une médiation,
il faut trouver quelqu'un. Il faut donner une parole à la rue. Tout ça, ça fait un peu peur.
En attendant qu'un médiateur soit nommé, un dernier mot avant de refermer ce magazine. Une pensée pour la famille de Djibo Letika, homme politique sénégalais, décédé hier à Dakar, à l'âge de 69 ans. Il fut plusieurs fois ministre dans les gouvernements des présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Valérie Thorin du magazine Afrikasie et Sidi Keba du Monde Afrique. Vous pouvez revoir l'émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.